Troisième course, le déluge. Chapitre 25. Moulin de Noirat, Ambert, France. Les 50 retraités traversaient la départementale avec une désinvolture de manifestants emmerdant les automobilistes coincés. Le mille-pattes argenté s'extrayait avec lenteur du car qui mordait la moitié de la chaussée pour s'agglutiner de l'autre côté de la route devant le guichet du moulin Richard de Bas. Musée historique du papier, annonçaient de grands panneaux de bois. La Volvo bleue attendait que le convoi dégage la voie. Arsène Pareya tapotait nerveusement le volant. Zaki Kabi, à l'arrière, fixait au loin les courbes arrondies de la double ligne de crête. Les monts du Forez à sa droite, ceux du Livradois à sa gauche. Un océan de forêt. La dernière chance, pensa Cécile. Après ce village, avait précisé Ikabi, il serait arrivé. Les doigts de la chercheuse tâtonnèrent, se refermèrent sur la poignée de la portière passager et tirèrent. Bloqué. Cécile pesta intérieurement. Pour quelle foutue raison Arsène Pareya avait-il activé la sécurité enfant de sa voiture? À sa connaissance, le professeur émérite n'était pas du genre à jouer les taxis pour véhiculer d'hypothétiques petits-enfants. La Volvo laissa passer un dernier couple de vieux et s'engagea à nouveau dans les étroits lacets de la route de montagne, grignotés sur leur droite par des branches de pins vertes et noires. Sur leur gauche, ils longeaient maintenant depuis une centaine de mètres un domaine clos par un double grillage électrique haut de 2 mètres. « Nous y sommes !» fit la voix enjouée de Zaki Kabi. Moins d'une minute plus tard, l'immense portail électrique défendant l'entrée du moulin de Noirat se refermait derrière la Volvo bleue. Piégé. Tout en observant les hauts murs de pierre de granit dévorés par le lierre, Cécile essaya de faire le point. Zaki Kabi avait passé la dernière partie de la route à s'extasier sur les somptueux paysages de volcans éteints qu'il traversait, sans oublier de leur dresser un portrait détaillé de l'hôte iconoclaste chez qui il les invitait, à la pointe du canon de son revolver. Noël Archer. Un nom d'emprunt. Logique pour un banquier, avait plaisanté Zach. D'après Ikabi, Noël Archer était un ancien trader de la City, qui un beau jour avait décidé de tout plaquer pour s'installer en Auvergne, dans le Val de Lagâtre, un coin perdu à plus de 100 km de la première préfecture. Enfin, tout plaquer, vous verrez, c'est beaucoup dire, avait-il conclu. Ikabi semblait incapable de livrer une information sans la ponctuer par un sous-entendu. Épuisant. Continuez tout droit. Arsène Pareya obéit. La Volvo bleue s'engagea dans un étroit chemin de gravier qui montait en pente raide entre un mur de pierre et la façade lézardée du bâtiment. Quelques dizaines de mètres plus loin, le véhicule s'immobilisa dans une cour, bordée de chaque côté par les deux longues façades de bois sombre de l'ancien moulin à papier. Un type jeune et corpulent les attendait sur le seuil, engoncé dans un t-shirt trop moulant blanc et noir barré d'un énorme WWF. D'ailleurs, les petites lunettes rondes et fumées de l'homme, en contraste avec sa peau laiteuse, lui donnaient une allure de panda grassouillé. « Alors, Zach !» plaisanta l'hôte dès que les nouveaux venus sortirent de la Volvo. « Tu as les néphilim et toutes les polices de France aux trousses ? J'ai lu l'actualité, tu fais fort !»« Les nouvelles vont vite !» s'amusa Zach. « Je demande asile, pour moi et des amis. Pour tout avouer, ils sont plus ou moins d'accord. » Le panda leur tendit la main. « Noël Archer, bienvenue au moulin de Noirat, authentique moulin à papier du XVe siècle. Abandonné pendant 2 siècles, il a été rénové après la guerre par une armée de bénévoles pour faire une colonie de vacances pour enfants des villes. Un petit bijou, jusqu'à ce que les gosses ne viennent plus, et que je le rachète il y a 3 ans pour en faire mon quartier général. Mon arche de Noé, si vous préférez. » Noël Archer se fendit d'un sourire d'adolescent à l'intention de Cécile et Arsène. « N'ayez pas peur de Zach. Il a l'air un peu dingue au premier abord, mais il n'est pas dangereux. Mieux que cela, c'est sans doute grâce à lui si vous êtes encore vivant. La meilleure preuve de sa bonne foi, si vous en voulez une, c'est qu'il vous a amené ici, à Noirat, dans mon bunker. Ici, personne ne rentre sans mon autorisation. » « Et personne ne sort, » répliqua sèchement Cécile. « Vous êtes au courant, je suppose, que votre ami nous retient en otage. » Zach encaissa. Noël ne broncha pas. Nous en reparlerons. Mais otage est un peu exagéré, non? Et je peux vous assurer que Zach a raison au moins sur un point. Les néphilim sont des types très peu recommandables. Je vous fais visiter le domaine? Cécile haussa les épaules et se tourna avec résignation vers Arsène Pareya. Noël Archer les précédait en jouant les guides enthousiastes. On va commencer par les caves voûtées. Nous mangerons ensuite au-dessus, dans la salle de la roue. Vous devez être affamé. Noël Archer s'exprimait avec la volubilité d'un ermite qui croise une caravane. Zach a dû vous raconter mon histoire. Il y a encore 36 mois, j'étais trader. Je ne vous fais pas un dessin. Cravate, city, stress, la valse des millions de dollars. Et puis, allez savoir pourquoi, un beau jour, j'ai tout envoyé promener. Coup de folie, illumination de génie, appelez ça comme vous voulez. Noël ménagea son effet. Ils passèrent à proximité d'un imposant pick-up bleu métal garé dans le sens de la pente. « Je suis devenu bio-trader. » Cécile s'arrêta net. Le vent piégé dans la cour s'engouffrait dans les étendoirs de bois ouverts sous les toits de schiste. Arsène Pareja évaluait la somptueuse architecture des lieux comme un Parisien à la recherche d'une résidence secondaire de caractère. « Bio-trader ?» répéta Cécile. Le panda se rengorgea. « Oui. Le concept est de moi. Je suis le seul biotrader au monde, je crois. » Archer grimpa trois marches. « Entrez, entrez !» Ils pénétrèrent dans une pièce voûtée, rappelant la chapelle d'un manoir. Ils se figèrent, stupéfaits. Le mur qui leur faisait face était recouvert d'une immense fresque peinte directement sur la pierre. Une vision d'épouvante. Des dizaines d'animaux luttaient, se noyaient, se dévoraient entre eux, les yeux injectés de sang. Crocs dehors, griffes sorties, cornes pointées. Autant d'armes inoffensives face au déluge figuré par des traînées de peinture sombre jetées sur le mur. Tous promis à une mort certaine. « C'est vous qui avez peint ça ?» balbutia Arsène. Le panda vira au rose. « Oui, je le confesse. C'était entre ma carrière de trader et celle de biotrader. Je m'ennuyais un peu. Je me cherchais, disons. Cette fresque m'a mis sur la voie. Je me suis inspiré de celle de Michel-Ange à la Sixtine. J'ai remplacé les humains par des animaux. » Cécile sentait son malaise grandir devant ces dizaines d'yeux exorbités, tels 100 lasers braqués sur elle. Pour couronner le tout, une insupportable odeur de cadavre empestait la voûte. Une irrépressible montée de bile incendiait sa gorge. Noël Archer ne semblait pas remarquer son trouble. Le concept de biotrader repose sur un principe d'une simplicité géniale, vous allez le constater. Tout le monde sait que la biodiversité se casse la gueule. Entre faune et flore, c'est entre 17 000 et 100 000 espèces qui disparaissent de notre planète chaque année. Cela représente 10% de bestioles et de plantes différentes en moins à chaque décennie. Donc, pour le dire autrement, en langage de banquier, l'offre diminue de façon vertigineuse. Que faut-il faire en bon trader quand l'offre diminue ? Acheter, très rapidement, fit Zach. Avant que l'offre ne se raréfie encore et que les prix flambent. « Exact, vous avez tout compris. Il n'y a rien à expliquer de plus. »« Attendez, » fit Arsène. « Que voulez-vous dire ? Vous achetez quoi ? Des animaux rares ?» Archer se redressa, fier comme un gamin lors de la remise des prix. « Ça dépend. J'achète des espèces, je les fais capturer, ou encore je les soigne, je les confie à des réserves, des musées, des zoos. Parfois je les revends, parfois j'investis, en fonction du cours des animaux menacés, vous voyez. » « N'importe quoi !» commenta Cécile. Zach regarda son ami d'un air désolé. Archer ne s'offusqua pas. « Mais non, mademoiselle, bien au contraire. C'est un business très sérieux. Non seulement je gagne une fortune avec ces animaux, mais en bonus, je sauve la planète. Lorsque vous êtes trader à la City avec vos millions de primes, la seule chose que vous ne pouvez pas acheter, c'est une conscience. Cela peut vous sembler un caillou dans une chaussure Vuitton, mais croyez-moi, cette saleté de conscience peut finir par vous gâcher le goût des plaisirs, alors que moi... » Cécile n'écouta même pas la fin de la tirade. Elle se rapprocha de son directeur et lui chuchota à l'oreille. « On est tombé sur un nid. Celui-là m'a l'air encore plus fêlé que l'autre. » Arsène Pareja hésita entre sourire et grimace. « Nous passons à côté, » invita Noël Archer. Ils baissèrent la tête pour pénétrer dans l'autre cave, celle d'où provenait l'odeur de putréfaction. Cécile releva la tête et immédiatement porta la main à sa bouche. Un nid de dingue ? C'était encore pire que tout ce qu'elle avait pu imaginer.